sais pas si Charbel était un modeste. D'abord, vous avez dit qu'il avait été longtemps curé de Saint-Julien-de-Pau, qui est la paroisse belgique de Paris. Et il est enseignant à l'Institut catholique et aussi enseignant à l'Institut chrétien d'Orient, qui est l'institut qui s'est créé il y a à peu près 5 ans, soutenu par le monde d'Orient, qui essaie d'étudier les chrétiens d'Orient sous toutes les facettes. Il n'y a pas de la théologie, mais il y a aussi donc, la théologie dans ses grandes composantes, la patristique, il y a aussi l'histoire, mais il y a aussi la géopolitique moderne, contemporaine. Voilà. Et je crois que c'est intéressant. Il faut d'abord faire le CIF. Hein. Après ça, on va faire de la concurrence déloyale. Alors, je m'étais arrêté en vous disant que globalement, les chrétiens d'Orient ne sont plus une force politique, ce n'est plus une force financière, ce n'est, Dieu merci, pas une force militaire, mais tout simplement la force des chrétiens d'Orient qui leur donne une crédibilité et qui assure leur pérennité, c'est de mettre l'Évangile en action. Autrement dit, d'être vraiment dans une action de mission. Alors je voudrais maintenant essayer d'évoquer un peu ce que nous percevons de ces communautés aujourd'hui, et puis préparer des questions ou des remarques. Bien sûr, on aura le temps pour échanger et si vous exprimer si vous le souhaitez. Alors d'abord, ces églises orientales dont on m'a parlé ce matin, je vais surtout maintenant parler des églises orientales catholiques. Non pas par désintérêt pour les églises orthodoxes, mais plutôt par respect pour elles. Je n'ai pas de titre, moi, à parler pour les églises orthodoxes. Mais c'est à peu près à la même. Donc, dans une église orientale catholique, il y a une autorité, alors évidemment, puisqu'elle est catholique, sous l'autorité ultime de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du pape, qui est également patriarche latin, comme on l'a dit ce matin. Mais dans une église orientale, il y a une autorité propre qui s'appelle le synode. Le synode dans une église, c'est l'ensemble des évêques de cette église, qui donc se réunissent régulièrement et qui évoquent les questions ayant trait à cette église, en particulier la désignation des nouveaux évêques. Mais dans une église orientale, ce n'est pas comme dans l'église latine, le nonce apostolique. D'ailleurs, entre nous, on se demande bien pourquoi le nonce, l'ambassadeur du Vatican, s'occupe de la nomination des évêques en France. Une autre question. Réinvitez-moi si vous voulez qu'on en parle. Voilà. Bref, parce que ce n'est pas du tout dans la tradition de l'église. Hein. C'est le début du XXe siècle que ça s'est fait comme ça. Voilà. La désignation des évêques a eu des tas de modalités diverses. En particulier la désignation par le chef de l'État. Donc sous Louis XIV, le nom, c'était l'ambassadeur des États pontificaux, se serait occupé de la désignation d'un évêque en France. Louis XIV le foutait dehors avec un coup de pied aux fesses en disant « Occupez-vous de ce qui vous regarde. » Voilà. Moyennant quoi, le chef de l'État, roi de France, puis empereur, puis président de la République, a eu la prérogative de nommer les évêques en France jusqu'en 1905. C'est à partir de 1905, séparation de l'Église et de l'État, que les noms se sont mêlés de manière un peu exclusive, et je l'avoue, abusive, de la nomination des évêques dans les pays de l'Église latine. Voilà. Je vous signale d'ailleurs, pendant que je suis lancé sur ce sujet, que les premiers à avoir demandé la séparation de l'Église et de l'État, à la fin du 19e siècle, c'était des catholiques, plutôt des catholiques de droite, qui ont voulu retirer à la Troisième République laïcarde ce droit de nommer les évêques. Et donc qui ont voulu une séparation pour que ce ne soit plus la République qui nomme les évêques. Et que les laïcards de l'époque ont refusé cette séparation, parce qu'ils voulaient garder le droit de nommer les évêques. Voilà, l'histoire est toujours plus complexe que ce qu'on en dit après. Donc, dans une église orientale, c'est le synode qui pourvoit à la nomination des évêques. Après ça, tout évêque catholique, par définition, sans ça il n'est pas catholique, doit être en communion avec l'évêque de Rome. Donc une fois nommé par les synodes, on demande à l'évêque de Rome de manifester qu'il se reconnaît en communion avec l'évêque de Rome, puis exactement que le candidat évêque oriental affirme être en communion avec l'évêque de Rome. Ce n'est pas une nomination, c'est une confirmation. Dans un synode, il y a un évêque qui a une autorité particulière qui est le patriarche. Voilà. Patriarche, ou dans certaines églises où il n'y a pas de siège historique aussi ancien, on l'appelle l'archevêque majeur, mais ça revient exactement au même. Voilà. Patriarche, archevêque majeur, pour votre information, l'appellation, c'est béatitude. Au début, ça surprend un peu, mais voilà, votre béatitude. Les patriarches, béatitude, les cardinaux, éminence, les évêques, excellence, et les, ceux qui sont rien du tout, comme Charbel et moi, c'est Monseigneur. Alors, les patriarches ont une autorité sur leur église, d'ailleurs, qui s'exerce de manière différente sur le territoire patriarcal. Chaque église orientale a un territoire qu'on appelle le territoire patriarcal. Et une autre forme d'autorité, moindre d'ailleurs, en dehors du territoire patriarcal. Et on reviendra sur cette question, parce que ça touche des questions de diaspora. Ces églises orientales ont un code de droit canonique spécifique. Alors vous n'êtes peut-être pas, si je puis dire, des ayatollahs du code de droit canon, mais enfin, vous savez que ça existe. Et il y a un code de droit canon pour l'Église, notamment latine, et il y a un code de droit canonique spécial pour les Églises orientales. Et en plus, chaque Église orientale a des règles spécifiques. C'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Parmi les règles de ce code de droit canonique oriental, ça va vous faire plaisir parce que vous voulez absolument vous marier, il est stipulé qu'un homme marié peut être ordonné prêtre, c'est-à-dire prêtre catholique. Et il y a actuellement en France des hommes mariés ordonnés prêtres qui exercent un ministère en France. Voilà un petit peu des aspects du droit de ces églises orientales. D'un point de vue sacramentel, je ne sais pas si Charbel en a dit quelques mots, l'une des particularités, c'est qu'il n'y a pas de dissociation du baptême, confirmation, je dirais même communion. Voilà. C'est dans une même acte sacramentel, liturgique, qu'il y a à la fois le baptême, la confirmation et la communion pour la première fois du bébé. Même si pour des raisons pastorales, on fait après ça de plus en plus pour les grands-enfants ou les adolescents, une espèce de communion solennelle comme il y a pu y avoir chez nous. Voilà. Sans cela, ces églises orientales ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît de l'église latine. Il y a les paroisses, avec les questions habituelles des paroisses. Il y a les chorales paroissiales, avec les problèmes inhérents à toute chorale paroissiale. Il y a la préparation au mariage, il y a le catéchisme, il y a les scouts. En Orient, les scouts, c'est très dynamique, très fort. Et je veux dire qu'ils sont en uniforme impeccable, etc. etc. La liturgie dominicale est importante, bien sûr, c'est la messe. On l'appelle la divine liturgie, mais elle est plus longue. Donc pour les adeptes de la messe en 25 minutes, il faut oublier. Je veux dire, une liturgie dominicale, ça va être 1h15, 1h30, etc. Ça rassemble vraiment la communauté. Donc très souvent, après la divine liturgie, on prend un café dans la cour de l'église. C'est un moment très important pour la communauté. Donc, ces communautés chrétiennes en Orient agissent à travers des œuvres. en particulier les œuvres d'éducation. Et donc il y a des écoles catholiques en nombre important. Écoles, collèges, lycées, écoles au sens large, et maintenant d'ailleurs université. D'ailleurs, ça me rendait un peu jaloux quand j'étais curé, parce que on a conservé, si vous voulez, souvent en Orient, le triptyque, la paroisse, lieu de la prière et de la célébration, l'école, lieu de la transmission, et le lieu de santé, le lieu d'accueil du malade et du pauvre. Le tout sous l'autorité du curé, c'est ça qui me rendait jaloux, parce que chez nous en France, les curés, c'est à peine s'ils peuvent mettre les pieds dans une école catholique, je veux dire. Bon. Là, c'est resté un petit peu tout de même sous l'autorité. Non, j'exagère. C'est l'autorité du curé, mais je trouve que ça dit quelque chose de la vie de l'Église, hein, qui n'est pas que la paroisse qui se rassemble pour la prière, même si c'est tout à fait le centre et le sommet, mais c'est le centre et le sommet, c'est pas le cœur. Et je pense que ce dynamisme que je vois, le lieu de la transmission, le lieu de la charité et le lieu de la célébration, je trouve que ça dit quand même un peu quelque chose de la vie de l'Église. En ce qui concerne l'éducation, la plupart de ces écoles catholiques accueillent des élèves chrétiens et aussi des élèves musulmans. Et donc vous voyez que quand pendant 12 ans, des jeunes ont été éduqués ensemble dans la même école, chrétiens et musulmans, vous dites quelque chose de la société de demain. Nous avons de très beaux témoignages de musulmans qui disent tout ce qu'ils doivent à l'école catholique où ils ont grandi. J'aurais dû l'apporter. Je pourrais vous montrer le témoignage de l'actuel ambassadeur d'Égypte à Paris, qui est un musulman, et qui a un trémolo dans la voix quand il parle de ce qu'il a reçu de l'école où il a grandi, qui était l'école de Jésus du Caire. Et il m'a dit, moi, vous savez, tout ce que je sais de l'islam, c'est les jésuites qui me l'ont appris. Et un enfant musulman manquerait de respect, par exemple, à une religieuse qui anime l'école, je peux vous dire que ça barberait pour son grade chez la maison. Il y a un immense respect de ces élèves musulmans pour les enseignants, qu'ils soient chrétiens ou non, pour les religieuses, pour les prêtres, etc. Donc il faut bien entendre cela. Ces écoles accueillent également des élèves de milieux aisés. C'est vrai, toutes les hautes bourgeoisies au Liban, en Égypte, en Syrie, fréquentent ces écoles, mais aussi des classes moyennes, mais aussi des élèves pauvres, et parfois des élèves très pauvres, et parfois des familles de réfugiés. Et des garçons et des filles, ce qui nous semble évident aujourd'hui. Encore que moi, qui suis un fils de l'école publique, j'ai grandi dans un lycée de garçons. Il vient de faire la sortie de lycée de filles pour voir ma copine. Voilà. Donc, depuis très longtemps, ces écoles accueillent les garçons et les filles. Donc, il y a tout un travail de promotion de la femme qui se fait à travers ces lieux d'éducation. Comme un certain nombre de ces écoles ont parfois été fondées par des congrégations religieuses venus de chez nous, et parfois venus de chez nous parce qu'on les a chassés, hein, ça nous permet de rappeler qu'avec la Révolution française, avec 1905, on a chassé les religieuses et les religieux de chez nous. C'était une affaire formidable sur le plan pastoral, parce qu'ils sont partis et ils ont exercé leur mission là où on voulait bien qu'ils soient. Et donc ça a été un grand essor de ces congrégations en Orient. Et donc, ce sont parfois des collations venues de chez nous, et donc ces établissements portent une dimension de francophonie. À des degrés variables, bien sûr, la langue de l'établissement, c'est l'arabe, ça va de soi. Ça va de soi aussi qu'il faut leur apprendre l'anglais, puisque c'est la langue des affaires et du pouvoir. Mais ces établissements gardent une dimension de francophonie, à des degrés divers, parfois c'est simplement la langue de la direction, parfois les matières générales se font en français, parfois il y a seulement une insistance forte pour que le français soit la première langue étrangère. Nous considérons ainsi qu'il y a environ 400 000 élèves au Moyen-Orient qui sont dans des établissements francophones. Et nous avons expliqué à ce qu'on appelle publiquement le plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au président Macron, que si on perdait ça, on perdait l'influence de la France dans la région. Voilà. Et donc, il a compris ça, et que vous le vouliez ou non, il comprend parfois assez vite les choses, et il a convaincu de créer un fonds d'État pour soutenir les écoles chrétiennes francophones du Moyen-Orient. Ce fonds est abrité au Quai d'Orsay et co-géré à parité par 4 représentants du Quai d'Orsay, 4 diplomates et 4 représentants de l'œuvre d'Orient. Je trouve que c'est pas si mal, par exemple. Voilà. Merci pour vos encouragements. C'est une affaire intéressante parce que dire que les gens du Quai d'Orsay étaient enthousiastes serait pas la vérité. Ils étaient furieux. D'abord parce que la décision vient du château, ils ont horreur de ça. Ensuite, c'est pour soutenir les écoles chrétiennes francophones, c'est dans les statuts. Et en plus, il faut gérer ça avec 4 cathos, dont un prêtre, alors ça, c'était le summum. Donc, c'était dur au départ, il a fallu que je remonte plusieurs fois à l'Élysée en disant « si ça continue comme ça, je me retire », etc. C'est intéressant de voir que quand le président de la République tape du poing sur la table, quand même, l'administration suit, mais parfois, il faut qu'il tape du poing sur la table. Bon. Et puis, petit à petit, vous savez, c'est les relations de personne à personne qui finissent par primer sur les grands principes théoriques, et il y a vraiment des relations de confiance. Nous travaillons dans chaque pays entre des représentants de l'œuvre d'Orient et les services culturels des ambassades de France respectives. Les services culturels dans l'ambassade, ce n'est pas les plus cathos. Hein. C'est pas favorable. Moi, j'ai un peu une sociologie, si vous voulez, de l'ambassade de France quelque part. Il y a l'ambassadeur qui vous reçoit courtoisement et qui, de toute façon, doit prendre 25 minutes pour vous expliquer comment marche le pays dans lequel il se trouve, sans se demander si nous, depuis 15 ans, on y est. Il faut l'écouter, ça ne sert à rien d'interrompre. Il faut. Le conseiller commercial ne m'intéresse pas du tout. Le consul veut savoir quel est notre assurance de rapatriement de bien pétain. Donc, le conseiller culturel nous est parfaitement, généralement hostile. Le conseiller de défense, c'est le cato. Monsieur le Monnier, j'appelle ma femme, vous dîner à la maison. Voilà comment ça marche dans les ambassades. Mais, vous voyez, la relation, c'est important, la relation de personne à personne, elle nous permet d'inscrire l'Église dans un contexte de laïcité, dans un contexte de vie de l'État. Et moi, je connaissais mal le Quai d'Orsay, hein, comme beaucoup de Français d'ailleurs. C'est un ministère qui est très mal connu, donc j'ai dû le découvrir, j'ai dû l'apprendre. Je ne suis pas du tout un féodé au Quai d'Orsay, hein, on a notre liberté, il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais en 15 ans, j'ai pris mes fonctions petit à petit, on a réussi à tisser des liens. Et maintenant, vous savez, on a vraiment des liens de confiance. Eux, c'est eux, nous, c'est nous. Contrairement à ce que s'imaginent certains, encore une fois, nous ne sommes pas inféodés au Quai d'Orsay, mais nous avons vraiment des liens de confiance et de connaissance. Et parfois, quand il y a une nomination, on sait qui est la personne et d'où elle vient. Donc parfois, depuis 15 ans, on a suivi les ambassadeurs qui se sont promenés de poste en poste au Moyen-Orient. Et c'est tout de même important. Et on a donné une image de l'Église. Ils se sont rendus compte qu'on n'était pas si affreux que ça. Je vous donne un exemple. Mon équipe à Beyrouth travaillait avec le service culturel de l'ambassade de France à Beyrouth, dans des locaux au moment où il y a eu l'explosion du port de Beyrouth. Donc toutes les vitres ont été cassées, ils étaient terrorisés, ils sont tous retrouvés à quatre pattes sous la table. Et après, ils sont allés boire une bière ensemble. Ils avaient à peu près le même âge, entre 25 et 30 ans. Ils sont allés boire une bière ensemble. Ben après, les liens n'étaient plus tout à fait les mêmes. Et laïcité ou pas laïcité, ils ont tissé des liens, ils sont devenus copains, etc. etc. Et donc, petit à petit, la présence d'Église est de plus en plus reconnue au Moyen-Orient par ses services culturels, par les ambassadeurs, etc. etc. Alors c'est une action tout de même intéressante. Comment nous, chrétiens, on s'inscrit dans cette sphère des pouvoirs publics? Est-ce qu'on commence à hurler? Est-ce qu'on commence à gueuler? Ou est-ce qu'on arrive à tisser ces relations de confiance qui sont faites aussi d'écoute, de reconnaissance? Il y a des grands diplomates encore en France, des gens qui ont vraiment le service de l'État. Il ne nous est pas interdit de reconnaître la qualité du travail qu'ils font. On a le droit aussi de parfois de faire et parfois de dire merci. C'est aussi une manière de la relation avec eux. On ne fait pas des pétitions sur la place publique. Les pétitions ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à occuper les organisateurs de pétitions. Voilà. Donc, moi, j'ai une certaine répugnance à signer des pétitions. En revanche, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ils le savent. Parfois, je vous répète assez fortement, hein. Mais ça reste entre eux et nous, ça suppose une discrétion. Quand j'étais curé, j'avais à peu près ces mêmes problématiques avec les maires d'arrondissement, par exemple. Si on a quelque chose à dire, il faut le dire. Il faut savoir le dire. On n'est pas toujours de... Voilà. On ne garde pas les gens de haut. On n'est pas forcément des gens qui savent mieux que tout le monde ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il faut qu'on ait quand même une relative humilité aussi dans nos rapports au pouvoir public. Je dis ça parce que je crois que ce n'est pas complètement éloigné de ce qu'on vit quand on, dans les relations avec les chrétiens dans le monde. Donc voilà, ce travail d'éducation, ce soutien de la francophonie, sachant que les écoles sont des lieux de vie sociale. D'abord, c'est des lieux importants, c'est des lieux de l'éducation, de l'instruction, mais ça a un rôle social qui représente parfois un peu le rôle qu'il y a chez nous dans les mairies. Par exemple, au Liban, où il y a des problèmes parfois dans certaines régions, les gens sont pauvres, la classe moyenne s'est considérablement appauvrie. Parfois, il y a des gens qui ont du mal à se nourrir. Ben, c'est l'école qui va distribuer des paniers repas, davantage que la mairie. Moi, je voyais une femme musulmane qui me dit « je suis une Besançon ». Moi, j'ai compris, je me suis dit, elle ne parle pas très bien français, elle veut me dire qu'elle est allée à Besançon. Et l'horrible par lequel je suis, s'est dit en lui-même, mais qu'est-ce qu'elle est allée foutre à Besançon? Belle ville espagnole, de Moron, etc. Ben, elle n'était jamais allée à Besançon, elle voulait me dire qu'elle était à l'école des religieuses de Besançon, c'est une congrégation qui est née à Besançon. Voilà. Les religieuses de la charité de Besançon. Que sa mère était à l'école de Besançon, qu'elle-même avait été scolarisée dans cette école de Besançon, que sa fille est à l'école des religieuses de Besançon. Donc elle est une Besançon. Cette espèce d'appartenance sociale. Et donc ce rôle éducatif est vraiment un élément clé, encore une fois, de pérennité pour les églises. Si Charbonne n'est pas d'accord, tu peux intervenir. N'hésite pas. L'autre domaine, c'est la santé, c'est-à-dire que à côté des écoles, très vite, il y a eu des dispensaires qui sont devenus après ça des hôpitaux, des lieux pour recevoir des malades, des très pauvres, des personnes très âgées. Autrefois, la tradition en Orient, c'est que les personnes âgées restaient à la maison. On ne mettait pas les enfants, les personnes âgées, dans un EHPAD. Ça ne se faisait pas. La famille gardait la personne âgée à la maison. Sauf que comme il y a eu un exode, parfois, les personnes âgées sont toutes seules. Donc il a bien fallu ouvrir des lieux pour accueillir les personnes âgées. Il y a eu une action aussi très importante qui me tient très à cœur, c'est dans tout le Moyen-Orient, des lieux chrétiens pour accueillir des personnes ayant un handicap mental, et en particulier des enfants qui ont un handicap mental. Un peu à la manière de l'Arche, soit directement dans l'Arche internationale, soit de manière analogue à l'Arche. En particulier, par exemple, en Haute-Égypte, il y a eu tout un réseau de communautés qui ont accueilli l'enfant handicapé mental. Et en Haute-Égypte, un peu comme la France des années 50, une famille qui a un enfant handicapé mental, c'est une sorte de double peine. D'abord, il y a ce petit bout de chou qui a cette difficulté, mais en plus, c'est une espèce de honte sociale. Et comme en France, hein, moi je comme curé, même dans les bonnes paroisses de l'Ouest parisien où j'étais curé, j'ai encore eu ces types de réactions. Hein. Je me souviens quand même, ça, je ne suis pas prêt d'oublier, hein, à Saint-François de Sales, une famille qui avait un enfant handicapé mental au premier rang, était venue au premier rang pour la messe. Et des gens à la sortie m'ont dit, mais ces familles-là, il faudrait les mettre derrière. Bon. En mettant en lumière que l'enfant handicapé mental est porteur de richesses, c'est aussi le regard pour le plus fragile qui a changé. Dans cette fragilité-là, mais après ça, dans toutes les autres fragilités. Et donc, ça a été tout un chemin de conversion. Le regard sur le plus faible. Souvenez-vous, dans l'islam, premier siècle de conquête, donc on honore le plus fort, on honore le plus puissant. Ce qui est normal, puisqu'on n'est pas disciple de Jésus crucifié, on ne peut pas leur demander de faire comme si. Hein. Donc, voilà, ça a changé le regard pour bien des réalités. Ces communautés chrétiennes, sont assez dynamiques. Il y a des vocations moins qu'autrefois, mais plus qu'en France. Il y a des séminaristes, des religieux, des religieux, même si les vocations sont en diminution. Parfois, je voudrais que les congrégations religieuses là-bas se remettent en question devant la diminution des vocations. Parfois en France, les congrégations religieuses ont constaté la diminution des vocations, mais ne se sont pas posées de questions, de remise en question, si vous voulez. Donc je souhaite qu'en Orient, il puisse y avoir cela. Ces communautés, je regarde là, vous m'avez dit qu'il fallait rester jusqu'à 4 heures. Très bien, très bien. Bon. Ces communautés sont donc aujourd'hui dans des communautés, dans des populations à majorité musulmane, avec au pouvoir, en règle générale, sauf le président du Liban, des gens musulmans. Encore une fois, ça n'a pas pu être comme ça dans ces territoires. Moi, je refuse d'appeler un pays musulman, ou une terre musulmane. La terre, c'est la terre, un pays, c'est un pays. Puisqu'on ne parle pas de pays chrétien en parlant de pays européen, je vois pourquoi je parlerais de pays musulmans, mais de pays à majorité musulmane. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors évidemment, c'est quelque chose qui marque profondément ces communautés. Comme on vous l'a dit, dans l'histoire, il y a eu des phases d'amitié, des phases de discrimination et des phases de persécution. Cela nous interroge sur cette question de l'islam. Je ne suis pas islamologue, même que je ne suis pas arabophone. Vous savez, comme vous savez, la gestion des ressources humaines dans l'Église a une marge de progression. J'étais curé, on m'a dit, tu vas à l'œuvre d'Orléans, tu crois que la parole du 15-23, tu te débrouilleras. Voilà. Donc je ne suis pas islamologue, Charmel connaît beaucoup mieux cela que moi. Je dirais, si quelqu'un vous dit, me semble-t-il, l'islam c'est ceci, ou l'islam c'est cela, fuyez. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'islam. Je vois bien des réalités d'islam. Alors on va dire, on va sortir des versets du Coran. Et vous voyez ce que dit l'islam. Oui, on peut sortir des versets de la Bible qui ne sont pas tous dans la tendresse et l'angélisme. Et par conséquent, en accusant l'islam de coïncider avec tel ou tel verset qu'on sort, nous faisons nous-mêmes une sorte de fondamentalisme du texte, puisqu'on assimile l'islam à ce texte. Et précisément, nous, on essaie de leur dire il n'y a pas de fondamentalisme du texte, un texte qui doit être interprété dans un contexte, etc. etc., etc. En plus, c'est un monde, ce sont plutôt des mondes. C'est plus d'un milliard, c'est plus d'une centaine de millions d'individus, et donc il y a des tas de formes différentes de l'islam. Je connais des musulmans, pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, à la conférence épiscopale française, il y a un service des relations qui autrefois s'appelait service des relations avec l'islam. Et il a changé de nom en raison de la problématique que j'évoque ici. Il s'appelle maintenant service des relations avec les musulmans. Et je crois que c'est bien c'est positif. Et donc, ce monde musulman, tout comme d'ailleurs le monde chrétien, entre nous soit dit, il est extrêmement divers. Avec cette difficulté dans le monde sunnite, qu'il n'a pas une autorité claire. Alors le roi du Maroc vous explique les commandeurs des croyants. Les Égyptiens vous disent Al-Azhar, la grande université sunnite, etc. Le commandeur des croyants, ça n'intéresse que les Marocains. Al-Azhar, ça n'intéresse que les Égyptiens. Le roi d'Arabie Saoudite vous explique qu'il est le protecteur des lieux saints, ça n'intéresse que les Saoudiens. Vous voyez, il n'y a pas d'autorité claire. Il n'y a pas d'autorité qui vous dise clairement ce qu'est l'islam. Les catholiques, il y a un principe d'interprétation. Un catholique est quelqu'un qui est en communion avec le pape. Donc, grosso modo, on peut arriver à peu près à savoir ce que c'est qu'un catholique et ce que pense un catholique. Certaines diversités, cependant. Mais, vous voyez, on peut mettre en cause Rome, la curie romaine, vous savez, ça fait quand même beaucoup de discussions entre le fromage et le dessert dans les presbytères. Hein. Mais, quand même, l'Église catholique est dans la communion avec cet évêque de Rome. Ça veut dire qu'il y a 100 millions, je ne sais pas, de catholiques qui, globalement, se retrouvent dans la communion avec l'évêque de Rome. Je ne sais pas si nous nous rendons compte qu'il n'y a que les catholiques qui ont ça. Vous ne trouvez cela ni chez les protestants, ni chez nos frères orthodoxes, ni chez les juifs, ni chez les musulmans, ni chez les hindous, etc. etc. C'est quand même quelque chose de très étonnant, quand même, de très particulier. Et même si je suis gaulois et que parfois, comme tous mes confrères, je peux râler, encore que les jeunes confrères, ils sont très soumis à Rome. Hein, les prêtres de ma génération peuvent volontiers râler contre les certaines lourdeurs de la cuillère romaine. Sur le fond du principe, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il y a donc posé la question de ces relations avec ce monde musulman. Il y a des islamistes radicaux, violents. Et il ne faut pas le cacher, je veux dire, ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais cela existe. Et donc, je vous montre un petit film. Alors, comment je vais trouver ce petit film? Vous avez un petit film? Chrétiens d'Irak, du nord de l'Irak, qui fêtent les rameaux. Donc c'est tous des chrétiens, ils sont plutôt heureux parce qu'ils font une procession dans la rue. Pour ça, ils n'éclatent pas de rire, c'est les rameaux où on proclame la passion du Christ. Ensuite, vous verrez 2 minutes d'arrivée de Daesh, hein, filmé par lui-même, hein, j'étais pas là pour le filmer. Ensuite, les exactions de Daesh, et puis la reconquête. Parce que pour vous montrer que la reconquête n'est pas une petite bataille, les bombes occidentales, c'était pas rien. Et puis, le retour, voilà. On regarde ce petit film, on en reparle après. Alors, comment on fait ? Derrière ces montagnes, c'est la Turquie.
Était la plus grande ville chrétienne d'Irak. c'est le 7 août 2014, les communautés chrétiennes et yézidis fuient leur village. Saccagées par Daesh, les villes ont aussi été détruites par l'aviation de la coalition internationale lors de la libération. Le 18 novembre 2016, le groupe Babylon Media, basé à Erbil, organise le Festival du Retour. Près de 4000 chrétiens se réunissent pour célébrer ensemble la libération des villes. S'est particulièrement acharné sur les signes religieux, les croix, les statues, brûlant beaucoup d'églises. Des habitants sont déjà revenus. Malgré les difficultés et les discriminations, des chrétiens font le choix de se réinstaller sur leur terre. À Mossoul, comme dans la plaine de Ninive, ils découvrent leur ville dévastée. Leur présence est essentielle pour la reconstruction du pays, où ils sont des artisans de paix et de médiation.
futuro di pace e prosperità che non lasci indietro.
Qu'on dirait aux Parisiens, ben on va avoir la visite d'un ayatollah. Ils s'en fichent complètement, voire on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire chez nous, quoi. C'est un peu pour ça l'état d'esprit des Irakiens. Et on a des papes récents qui ont le charisme de toucher le cœur des gens. Et il a dit aux Irakiens ce qu'ils avaient besoin d'entendre et que personne ne leur disait. Vous êtes un grand peuple. Personne ne l'avait dit sur les Irakiens. C'était toujours pour les déconsidérer qu'on leur parlait. Vous êtes un grand peuple. Vous avez tous souffert. Voilà. N'oubliez pas vos souffrances, mais ne restez pas scotchés sur vos souffrances. Et regardez devant, et construisez l'Irak de demain. Parce que les jeunes générations, elles vous demandent si elles ont encore un avenir en Irak. Donc regardez cela. Donc il a parlé pour les Irakiens, mais en parlant pour les Irakiens, il parlait aussi pour les chrétiens, non pas dans un discours de défense, de gens retranchés dans un camp, dans une forteresse. Il indiquait un projet pour l'Irak dans lequel les chrétiens peuvent jouer un rôle, dont ils peuvent être les acteurs et les bénéficiaires d'une évolution pour l'Irak. Voilà. Il est tout de même intéressant de montrer qu'après ça, donc, président Macron est venu, et il m'a demandé de venir avec lui, et notamment à Mossoul. Et à Mossoul, il m'a dit, je n'aurais pas pu faire ce voyage si le pape n'était pas venu avant moi. C'est lui qui a ouvert la route. Quand je rentrerai à Paris, je l'appellerai au téléphone pour le remercier. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais quand même. Vous voyez, c'est quand même des choses importantes tout de même. Et depuis le voyage du pape en Irak, le 25 décembre est considéré pour tous les Irakiens comme un jour férié. C'est... Tous les Irakiens ont un jour férié pour Noël. Et le jour anniversaire de l'arrivée du pape en Irak est un jour en Irak dédié au dialogue interreligieux. Oui, ça, vous ne l'avez pas entendu. Hein. Donc on entend parler toujours de la frange qui existe. Je ne vous l'ai pas caché, je vous ai montré. Je ne peux pas me taxer de naïveté, d'angélisme, d'islamophilie, en disant qu'ils sont tous formidables, tout ce nom. Il y a cela, je ne l'ai pas caché, il y a des gens ultra-violents. Hein. Daesh, c'était vraiment un recul de civilisation absolument épouvantable. Quand même, rouvert le marché des esclaves à Mossoul. Hein. Mais on ne peut pas dire que tout soit comme ça. Après ça, ça ne veut pas dire que... Vous savez, l'islam est en quelque sorte atteint par deux crises qu'on a eues chez nous. La crise de 1905, et la crise de la laïcité, la crise de la rationalité, si vous voulez. C'est toujours difficile pour une religion révélée d'être confrontée à ces réalités. Et deuxièmement, la crise de 68, c'est-à-dire la crise de l'individualisme. Et c'est toujours difficile pour une religion qui est extrêmement sociale dans son modélité. Et ils ont ces deux crises qui les atteignent en même temps, et qui apparaissent comme véhiculées par l'Occident, parce que la mondialisation dont on parle est quand même beaucoup une occidentalisation, qui est quand même beaucoup une américanisation. Hein. Donc ils se sentent menacés par ces deux crises. Et ils n'ont pas les instruments qui permettent de les affronter, qui sont, d'une part, une autorité. Vous savez, la crise du modernisme, fin du 19e siècle et début du 20e siècle, a été une crise terrible. Quand je disais à ma grand-mère, qui était une sainte femme, que quand on dit que le monde a été créé en 6 jours, c'est une manière de parler, et que ce n'est pas ça la question c'est la vérité théologique qu'il y a là-dedans. Ma grand-mère était horrifiée. Ma grand-mère est née en 1900. Voilà. Elle était horrifiée. J'étais un petit fils perdu. Bon, ma cote est montée quand je suis rentré au séminaire. Mais voilà. Donc, cette crise que vous rencontrez un certain nombre de milieux musulmans, chez vous, elle n'a pas été si éloignée que cela. Nous avons pu affronter cette crise parce que nous avons une théologie de l'histoire. Nous considérons que l'histoire a une valeur théologique spirituelle. Pourquoi ? Parce que Dieu est entré dans l'histoire avec Jésus. Donc l'histoire a un statut particulier. Mais si on n'a pas ce Jésus qui est entré dans l'histoire, il manque à l'islam une théologie de l'histoire. Ce qui fait que aller vers la pureté de la foi, avoir le souci d'une certaine radicalité, c'est une bonne chose. Pour nous chrétiens, la radicalité, c'est la sainteté. Mais si vous n'avez pas de théologie de l'histoire, ça veut dire que être radical, c'est essayer de vivre comme on vivait au 7e siècle. Et donc ça véhicule un certain archaïsme. Alors que pour nous, nous avons bien compris que la radicalité et la sainteté à laquelle nous aspirons tous n'est pas nécessairement vivre au 1er siècle. Et quand saint Paul dit que dans l'assemblée, il faut que les femmes aient la tête couverte, je constate que saint Paul n'est pas très respecté dans notre assemblée. Voilà. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, on s'en fiche complètement, que Dieu se fiche sans doute complètement de savoir si les femmes ont la tête couverte ou pas. Nous avons évolué, nous avons une histoire que nous pouvons avoir parce que nous croyons que Dieu agit dans l'histoire. Si vous n'avez pas cela, vous êtes dans un archaïsme, dans un fondamentalisme. Deuxièmement, pour affronter une crise, il faut une autorité. Les papes de Rome, puisque j'ai commencé à critiquer Rome, si on regarde les papes du 19e siècle, début du 20e, c'était quand même très, très, très conservateur quand même. Hein, si vous relisez les textes des papes de Rome, voilà. Et puis à un moment, il y a un pape un peu éclairé qui a dit maintenant ça suffit, on tourne la page et on avance. Et qui a indiqué comment on pouvait avancer sans non plus faire n'importe quoi, mais de toute évidence, on ne peut pas lire la Bible de manière fondamentaliste et qui a donc invité les exégètes à progresser dans la lecture de la Bible. Ça n'a pas été si simple. Hein. Le fondateur de l'école biblique de Jérusalem était régulièrement menacé d'excommunication. Hein. Bon. Mais il y a une autorité qui a bougé. Donc pour faire un mouvement, pour affronter une crise, il faut bien une autorité qui dit « Attends, on avance ». Quand il n'y a pas cette autorité, c'est vraiment difficile. Et donc, le monde musulman se sent menacé par cette double crise. Donc devant cette menace, il y en a qui choisissent la violence, en disant « C'est le grand Satan, prenons les armes et défendons-nous ». Il y en a qui sont complètement paumés, qui n'ont rien que faire, et dont les jeunes musulmans, vous savez, on fait ramadan pour faire plaisir à papa, maman, et dans l'existence, on cherche surtout à avoir un écran plat de télévision, parce que ça, c'est un but dans la vie. Il y a ceux qui cherchent, et il y a ceux qui cherchent. C'est important. Vous avez beaucoup de musulmans, parfois isolés un peu de leur propre communauté, qui cherchent des chemins pour l'islam. Et pour des relations entre les musulmans et les chrétiens. Voilà. Et en France, il y a encore beaucoup d'islamologues, donc pas moi, mais des gens qui connaissent bien l'islam, il y a des conditions de liberté, etc., pour favoriser cette rencontre entre chrétiens et musulmans. Vous voyez, sans naïveté, sans angélisme, je vous ai montré des choses qui sont dures à voir. Et ça existe aussi. Donc ça, c'est sur cette question de l'islam. Et vous savez, un évêque me disait, si nous, on a encore la foi, c'est grâce aux musulmans. Pourquoi ? Parce que les musulmans les ont obligés, mais un peu, à tenir leur foi, à creuser leur foi. Hein ? Et c'est parfois renforçant dans la foi d'être confronté à un monde musulman que d'être dans la facilité matérialiste, etc., qu'on peut avoir chez nous et dans notre jeunesse en particulier. Encore une fois, vivre chrétien dans un monde musulman oblige à savoir en qui on croit et comment on tient cela. Donc il y a là toute une problématique très importante. Les chrétiens d'Orient peuvent être des ponts, comme ils sont d'ailleurs des ponts dans les relations œcuméniques entre catholiques et orthodoxes. Puisque, comme je vous l'ai dit ce matin, beaucoup de ces églises ont une branche catholique, une branche orthodoxe, mais partagent les mêmes traditions, etc. Et donc, les relations peuvent être bonnes. Pas toujours au niveau des grands chefs. Les grands chefs, et pour le besoin de défendre leur précarité. Mais au niveau des familles, hein, souvent, les catholiques, son beau-frère est orthodoxe, etc., etc. Donc il y a beaucoup plus dans les villages de rencontres positives entre catholiques et orthodoxes. Deuxième chose, et je m'arrêterai là-dessus pour écouter vos questions, qui touche donc ces communautés en Orient, c'est que une partie de la population veut quitter l'Orient. Parfois sous coup de persécution, mais plus souvent parce qu'il y en a assez de discrimination. Et peut-être encore plus souvent parce que le Moyen-Orient est en difficulté économique. Que tout le monde a un peu envie de quitter cette région, y compris les musulmans. Mais les chrétiens sont ceux qui peuvent le faire parfois le plus facilement, parce qu'ils connaissent les langues européennes, parce que parfois les consulats leur donnent plus facilement des visas qu'à des musulmans. C'est plus facile pour un Libanais chrétien d'avoir un visa que pour un Libanais chiite, par exemple. Voilà. Donc, cette population quitte la terre d'origine, se rend dans des pays d'accueil, parfois la France, mais aussi la Suède, l'Australie, le Canada, bref, dans les grands pays d'accueil et d'immigration. C'est ce qu'on appelle la réalité de diaspora. Alors, parfois, pour les évêques et patriarches du Moyen-Orient, ce mouvement de diaspora est perçu comme une sorte d'appauvrissement pour la communauté d'origine. Alors, je pense qu'ils ont tort, car ça peut être aussi une richesse. Et que, alors je peux donner comme exemple le peuple d'Israël. Que serait aujourd'hui Israël, l'État d'Israël, sans sa diaspora? C'est bien parce qu'il y a une diaspora importante aux États-Unis et en Europe que les gouvernements occidentaux, quand même, sont très en soutien sur l'État d'Israël. La diaspora juive est un soutien pour l'État d'Israël, pas simplement une perte. Mais cela suppose de réfléchir à l'articulation des communautés de diaspora avec l'Église mère. Peut-être aussi il faut que ce mouvement de diaspora ne soit pas un abandon pur et simple de la terre des origines. Par exemple, beaucoup de Libanais qui ont quitté le Liban, mais ils ont gardé la maison familiale, dans le village familial. Et on revient au Liban pour l'été, on revient pour un mariage, un baptême, ou parfois pour des funérailles. Le lien n'est pas complètement rompu. Voilà. Donc il faut réfléchir à l'articulation de ces diasporas avec les églises mères. Pour ce qui est de la France, donc pratiquement toutes les églises orientales ont des communautés en France. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un diocèse, une éparchie ukrainienne, arménienne et maronite. Les autres rites qui n'ont plus de secret pour vous, c'est-à-dire les syriaques, les chaldéens, les grecs melkites, les coptes, les roumains, les russes, les éthiopiens, les érythréens, les malabars, les malankars, et puis j'ai dû en oublier un dieu, voilà, sont rassemblés dans ce qu'on appelle un ordinariat pour les catholiques orientaux. Donc je peux vous faire circuler l'ordo de ces entités orientales catholiques en France. J'aurais dû vous en apporter, mais il fallait que je rouvre l'alarme à l'ordre. Je vous en fais peut-être parvenir pour une autre fois pour vous donner un exemplaire si vous voulez. Ce sont des communautés dynamiques qui se retrouvent notamment à Paris, Lyon, Marseille, mais pas seulement. Par exemple, chez les Syriaques, il y a une paroisse syriaque à Paris, près du Panthéon, l'église Saint-Ephrem. Mais il y en a aussi à Lyon, il y en a à Tours, il y en a à Lille, il y en a à Nantes. Vous voyez, on a développé les communautés syriaques en France. Les Chaldéens, il y en a à Paris, il y en a à Sarcelles, il y en a à Lyon, il y en a à Marseille. Vous voyez, ça s'est quand même bien déployé. Avec quelque chose qui se passe, enfin, qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir des vocations dans ces communautés de jeunes orientaux nés en France. Nés en France et donc ayant la citoyenneté française. On rappelle que ces catholiques orientaux sont généralement des Français. Donc il n'y a pas les catholiques français et puis les catholiques orientaux en France. Il y a les catholiques latins et les catholiques orientaux. Et tous peuvent être français. Alors, par exemple, à Sarcelles, il y a une grosse communauté chaldéenne qui sont des Chaldéens venus de Turquie. Ce sont des rescapés du génocide, parce que le génocide visait les Arméniens, mais également les Assyro-Chaldéens. Et eux, ils en ont réchappé parce que le seigneur kurde, les Kurdes ont prêté la main au génocide de 1915. Hein. Mais le seigneur kurde a dit non, cela, vous ne me suicidez pas, j'en ai besoin parce qu'ils travaillent ma terre. Ils étaient quasiment en situation servile sous la domination du seigneur kurde. Et après cela, à l'époque récente, ils étaient pris entre deux feux, entre l'armée turque et le PKK kurde, chaque camp les accusant d'être du côté des autres. Donc ils en ont eu assez, ils ont dit on s'en va. Donc ils ont envoyé des émissaires un peu partout, voir où ils pouvaient aller, et ils sont arrivés, il y en a qui sont arrivés à Sarcelles. Donc ils ont vu le maire de Sarcelles, un certain Dominique Strauss-Kahn, et dit voilà, nous on est les Chaldéens de Turquie, on voudrait arriver à Sarcelles. Ah bon, vous ne savez pas trop bien ce qu'étaient les Chaldéens, bon, vous arrivez de Turquie, donc vous êtes musulmans, ah non, on est chrétiens. Ah bon, vous êtes chrétiens, vous n'êtes quand même pas catholiques, si, les Chaldéens sont des catholiques. Ah bon, c'est un homme qui était quand même intelligent, donc ils ont été accueillis à Sarcelles. Et c'est une très grosse communauté. Si un jour vous avez l'occasion, allez à la messe à Sarcelles, vous verrez d'abord l'église qui était. On a construit deux églises, une à Sarcelles, une à Arnouville à côté, c'est la même paroisse, ce sont des églises de style assyro-chaldéen. Et donc une communauté qui s'y rassemble, très impressionnant. La messe du dimanche à Sarcelles, la messe chaldéenne à Sarcelles, c'est tout à fait considérable. Et dans cette communauté, il commence à y avoir des vocations. Des vocations de jeunes qui veulent rentrer au séminaire. Donc ça nous pose, on est ravis, bon, ça nous pose une question, on dit, parce que les séminaires ne sont pas adaptés à accueillir des orientaux. Donc il faut que je travaille avec les supérieurs de séminaire pour trouver une méthode pour former ces futurs prêtres chaldéens. Et pour eux aller à Bagdad, je ne sais pas, ça ne leur dit rien, ils n'ont jamais mis les pieds à Bagdad, en Irak. Là. Ils sont nés en France, c'est des petits Français. Voilà. Ou des vocations de diacres permanents. Ou parmi ces diacres permanents, certains qui veulent après ça devenir prêtres, puisque les hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Pour nous, c'est un élément de dynamisme, on s'en réjouit, un petit peu de complexité, mais voilà, il y a ces vocations sacerdotales qui naissent. Alors voilà, il faut que ces diasporas, c'est le travail que nous essayons de faire à l'ordinariat, puissent aider ces communautés. D'abord, à ne pas se refermer comme des réserves d'Indiens. Il ne s'agit pas qu'ils recréent un petit monde chaldéen en France pour se retrouver entre chaldéens, pour vivre entre chaldéens, penser chaldéens, se marier entre chaldéens, etc. Un truc qui serait complètement refermé sur soi-même parce que ça ne marcherait pas. Oui, la première génération de ceux qui peut-être connaissent encore mal le français et qui viennent d'arriver. Ça marche un peu moins bien pour la deuxième génération, et la troisième génération, ça explose. Parce que les petits-enfants, ils ont grandi, ils sont nés en France, ils ont grandi dans une école française, ils parlent parfaitement français, ils parlent plus très très bien la langue originelle chaldéenne, et donc si on veut les enfermer dans la réalité chaldéenne, ça va exploser. C'est intéressant à Sarcelles, parce que la première génération, un peu comme les enfants de familles algériennes, d'ailleurs. La première génération, c'est avoir pris la décision très lourde, très dure, pour de quitter leur village, de quitter leur terre et d'atterrir à Sarcelles. Donc il faut trouver une maison, il faut trouver un travail pour nourrir la famille, il faut trouver sa place, il faut apprendre le français. C'est facile quand on a 15 ans, c'est plus difficile quand on a 60, etc. La deuxième génération, mon fils, tu travailles à l'école, il faut que tu réussisses parce que il faut que la famille compte sur toi. Il faut que tu puisses créer une petite entreprise et développer la famille, etc. Ah, la deuxième génération, une gosse pour voilà. Et la troisième génération va voir le grand-père et dit non, grand-papa, alors notre maison familiale, elle était où? Mais pourquoi tu me parles de ça? C'est terminé, c'est fini, etc. Non, je veux dire, notre village, c'était bien ça. Moi, j'ai une carte du village. Alors, c'était laquelle, notre maison, tu peux me montrer? Mais pourquoi tu me demandes ça? Enfin, parce que j'ai envie d'y aller. Quoi? Voilà. Donc, vous voyez, quand les gens disent ils partent, ils reviendront jamais, moi je commence à avoir suffisamment d'âge pour me dire il faut jamais dire jamais dans l'histoire. Et je leur donne un exemple qu'ils n'aiment pas, d'ailleurs, ça m'amuse à leur donner. Moi je connais un peuple, on va dire, qui est dans les années 64 de notre ère, qui est parti de sa terre et qui est revenu en 1948. Alors est-ce que les chrétiens d'Orient seront capables, cette même mémoire, qui est quand même impressionnante quand même, hein, et pour un retour, je ne sais pas, moi, on me dit ils reviendront jamais, mais peut-être pas l'année prochaine, mais dans 20 ans, dans 50 ans, dans 3 siècles, moi je ne sais pas. Ces questions de diaspora aussi nous bousculent, parce qu'ils font partie de l'Église de France. L'Église de France, ce n'est pas l'Église latine de France, c'est l'Église catholique de France. Donc ils font partie de l'Église catholique de France. Et donc, en retour, ils peuvent enrichir la vie de notre Église par les traditions qu'ils portent. Charbel a évoqué, je crois, les traditions liturgiques, la richesse de leur liturgie, leur manière d'approcher les réalités, etc., etc. C'est un enrichissement pour l'Église de France. La manière par laquelle les catholiques orientaux peuvent comprendre les relations œcuméniques, c'est parfois dans le diocèse, il y a un délégué de l'évêque pour les œcuméniques, mais c'est souvent une équipe. Moi, j'essaie de faire en sorte que dans chaque diocèse, dans l'équipe œcuménique du diocèse, il y ait un catholique oriental, s'il y en a dans le diocèse. Ils ont quelque chose à dire des relations avec nos frères orthodoxes. Donc c'est un enrichissement pour l'Église de France. Et donc, il faut dissocier dans nos pensées, quand on parle Église catholique, quand on parle Église latine. Et moi, je suis un prêtre latin, même si je suis barbu, et je n'ai pas du tout envie d'arrêter d'être un prêtre latin. Donc, très très bien comme prêtre latin, s'il n'y avait pas d'oriental dans la pièce, je dirais que je suis très heureux avec la liturgie latine, hein, qui me va très bien. Célébrer derrière un iconostase, ce n'est pas forcément mon truc spontané. Voilà. Mais à chacun sa tradition, à chacun sa richesse. Mais plus je rencontre les orientaux, et en particulier les catholiques orientaux, plus je sens que je deviens catholique. J'étais latin, et je croyais naïvement que latin et catholique, ça voulait dire la même chose. Un catholique, c'est un latin, c'est un catholique. Les orientaux m'aident à avoir une dimension catholique de la vie de l'Église et de ma foi. Donc, essayons d'être catholiques, non pas pour être délatinisés, je suis très fier d'être latin. Je vous dis, je n'ai pas du tout envie d'arrêter d'être latin. Donc, il ne s'agit pas d'abandonner nos racines latines. Hein, mais de savoir que le catholicisme, c'est plus large, plus grand que l'Église latine. Voilà. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous dire. Peut-être juste si vous me donnez le droit à un mot, quand même, sur l'œuvre d'Orient, même si je ne suis pas venu pour vous en parler. Sachez simplement, je vais vite, l'œuvre d'Orient est née en 1856, à Paris, créée par des profs de la Sorbonne. C'était donc des chrétiens et des laïcs. Voilà. C'est rigolo parce qu'à cette époque, on créait des ordres de religieux, innombrables. Hein, regardez dans les ordos la liste des congrégations religieuses. Parfois, quand on a envie de sourire dans les presbytères, on dit la liste des religieuses. Voilà. Là, c'est des laïcs qui ont voulu donc créer une œuvre laïque. Et donc, ils sont allés voir l'archevêque de Paris, le cardinal archevêque, qui prennent ça sous sa protection. C'est ça qui donnait. À l'époque, il n'y avait pas encore d'association de 1901, qui avait une existence juridique à une œuvre. Donc au début, c'était pour soutenir les écoles. Donc c'est appelé l'œuvre des écoles d'Orient. Très vite, ils ont vu qu'il y avait des lieux de santé. Donc on s'est appelé l'œuvre d'Orient, puisqu'il n'y avait pas que l'éducation, la santé et la vie des communautés. Parce que si on veut que ces œuvres se poursuivent, il faut qu'il y ait des communautés qui les portent. Les événements récents et les drames récents de Daesh et autres nous ont obligés à accentuer notre plaidoyer. Donc je passe beaucoup de temps à parler avec les élus nationaux ou européens, avec les cabinets ministériels, avec les diplomates, avec la présidente de la République. Si vous êtes capable de garder un secret, j'ai eu un SMS l'autre jour de la cellule diplomatique de l'Élysée. Je lui avais dit comment je voyais la situation de ces derniers jours en Syrie. Je reçois un SMS. Monseigneur, est-ce que vous pourriez essayer d'en convaincre Monsieur le ministre de l'Intérieur? Ne vous dites pas. J'ai perdu mon fil. Nous appuyons sur un réseau de 70 000 donateurs, enfin plus de 100 000 donateurs, mais chaque année, ça fait 70 000, 75 000 actifs, ce qui nous fait donc un budget d'environ 30 millions d'euros. Les chrétiens d'Orient nous connaissent, nous font remonter leurs besoins, donc c'est toujours eux qui déterminent ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas nous, depuis Paris, qui avons dit qu'il faut une école là, il faut un hôpital là, on est incapable de ça. C'est eux qui savent comment, au nom de leur mission, ils doivent mettre en place telle œuvre, une école, etc., agrandir leur école, agrandir leur dispensaire, et ils nous remontent les projets pour que nous ayons le financement. Donc nous sommes liés à l'archevêque de Paris, qui présente un prêtre pour être directeur de l'ordre d'Orient. J'espère réfléchir à ma succession. Voilà, j'ai 72 ans, ça commence à bien faire. Voilà. Et nous sommes membres du conseil caritatif de l'Église de France. Nous retrouvons l'aide à l'Église en détresse, le secours catholique, etc., l'ordre de Malte, les copains Saint-Paul, Saint-Sépulcre, etc. Et puis nous sommes à Rome, membres du comité directeur qui coordonne les organismes caritatif auprès des églises orientales. Voilà. Voilà un petit peu. Donc nous avons nos bureaux au rue du Regard et il y a quand même une cinquantaine de salariés à l'heure parce que ça devient complexe. Les événements récents nous ont amené aussi à nous occuper du patrimoine. Donc on a suscité il y a quelques années à l'Institut du monde arabe une exposition sur les 2000 ans du chrétien dans le monde arabe. Nous avons poussé à la création, qui est un très beau projet, d'un département sur les arts byzantins et autres églises orientales au Louvre. Il va bientôt ouvrir, c'est un très gros événement culturel. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager, même s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Donc je vous laisse la parole, si vous avez des remarques, qui est vous, monsieur Castibanet, vous avez des tas de choses peut-être à vouloir dire, n'hésitez pas. Je vous écoute.
Je suis impressionné par votre amour de la région du Chrétien d'Orient. Pourquoi et qu'est-ce qu'un Français, quelque chose que nous, il peut s'intéresser à cet amour?
Alors d'abord, comme prêtre, je reçois ma mission de l'évêque. Donc ce n'est pas un choix personnel, c'est l'évêque qui m'a demandé d'aller à l'Orient. Comme il m'avait demandé de trouver une première paroisse, peut-être trouver une seconde paroisse avant d'être moniteur. Et j'ai vu dans ma vie de prêtre, comme sans doute Charbel, que la mission que me confie l'évêque, que me confie l'église en quelque sorte, me fait aimer ma mission. À chaque fois, j'ai aimé la mission que je n'avais pas spécialement chercher, mais qu'on m'a donnée. J'ai aimé mes paroissiens. Je ne sais pas si la réciproque est vraie. J'ai aimé les chrétiens d'Orient. Alors quand même, ça ne m'est pas tombé dessus totalement par hasard. Il est vrai qu'avec quelques confrères prêtres, je passais mes vacances, parce que j'ai vu que les prêtres peuvent passer mes vacances, donc on allait passer une semaine dans un pays d'Orient. Pour nos vacances. Et à la fois on est assez bien accueillis, donc on n'était pas obligé d'aller dans un hôtel trop onéreux. J'ai poussé la porte d'un presbytère, on nous accueillait. Et puis c'était quand même intéressant quand même, et puis une richesse culturelle. Donc c'est vrai que dans mes vacances, j'ai appris à aimer ces lieux par leur richesse culturelle, par la foi des chrétiens, mais aussi par un certain mode de vie. Je trouve que dans nos pays occidentaux, européens, français, je trouve qu'on est quand même dans une espèce de pression administrative, bureaucratique, vous n'avez pas rempli le formulaire 3824, vous n'avez pas, etc., etc. Et je trouve, et je pense que beaucoup d'Européens ressentent ça quand ils vont en Orient, une vie, une société où la relation de personne à personne a sa place. On commence à se rencontrer, on commence à se parler, on peut discuter. Si vous n'avez pas de rempli dans l'être formé à 3 minutes, on peut peut-être en discuter, on peut peut-être se parler, on peut peut-être négocier, on peut voir. Je trouve que cette vie, à bien des égards, est humainement plus riche que nos vies occidentales qui sont très cadrées, quadrillées, je dirais, et un peu. Voilà un petit peu pourquoi j'aime l'Orient. Tout en aimant mon pays. Oui ?
Où est-ce qu'on en est sur le terrain, justement, l'après Daesh ? On a vu les photos, la phase de reconstruction. J'ai compris que le Moyen-Orient était très impliqué aussi, justement, pour ramener des sous ou soutenir des projets. Où est-ce qu'on en est dans ces phases
Donc il y a eu une phase de reconstruction. On n'était pas les seuls. Il y avait nos amis de l'aide à la mise en détresse, par exemple. D'autres associations comme Fraternité en Irak, une petite association qui fait un très bon travail en Irak. Il y a aussi nos amis américains, des associations comme l'œuvre d'Orient, que d'ailleurs l'œuvre d'Orient a créé il y a plusieurs dizaines d'années. Il y a des associations belges, il y a des associations allemandes, il y a beaucoup des gros diocèses du sud-ouest de l'Allemagne, hein, les gros diocèses bavarois, qui sont des gros services de solidarité, font des actions aussi au quotidien. Ils ont l'avantage sur nous que l'argent tombe du ciel gouvernemental. Ils ne sont pas obligés d'aller chercher dans la poche des donateurs. Voilà. Un inconvénient cependant, parce que parfois, mes amis allemands me disent « On ne peut pas agir en Syrie, le gouvernement ne veut pas. » Même si j'essaie d'avoir des relations confiantes avec le Quai d'Orsay, je demeure libre. Si nous, on veut agir en Syrie, nous agissons en Syrie. Nous avons agi en Syrie toutes ces années-là. Voilà. Alors, il y a une phase de reconstruction impressionnante quand même à Karakol, donc la grande ville syriaque du nord de l'Irak, on a reconstruit les maisons. À Mossoul, aussi, on a reconstruit toutes les églises qui ont été détruites par Daesh. Et aussi les mosquées.
C'est fait, ça.
Oui. Au mois d'octobre, une inauguration des dernières églises que nous avons réussi à reconstruire. Voilà. Alors après ça, les chrétiens, ils ont quand même vu la mort de près, quand même. Hein. Ils ont été chassés de Mossoul dans des conditions épouvantables. Un vendredi, on vient le matin chez eux, on leur dit « avant midi, vous dégagez. » Ou alors vous vous convertissez à l'islam. Imaginez simplement que c'est vous, hein. Que là où vous habitez, je ne sais pas où vous habitez, quelqu'un vient de chez vous et vous dit avant midi, vous devenez musulman, vous dégagez. Ah, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Donc ça a été très, très violent. Et donc, évidemment, les chrétiens se disent, mais bon, d'accord, maintenant vous nous dites, vous reconstruisez, on est à notre côté, sans doute ça ne va pas se reproduire dans les années qui viennent, on peut l'espérer. Vous êtes sûr que dans 20 ans, ça ne va pas se reproduire? Dans 40 ans, nos enfants, ils doivent revivre ça? Si j'étais père de famille dans le nord de l'Irak, qu'est-ce que je ferais? Vous comprendrez qu'on puisse vouloir pour mes enfants autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a un désir de départ. Mais ceci, le désir de départ, il est vrai aussi c'est chez beaucoup de musulmans. Hein. Simplement, évidemment, comme les communautés chrétiennes sont plus petites, plus fragiles, le départ de chrétiens fragilise plus la communauté chrétienne qu'un départ de musulmans quand la communauté. Voilà. Mais c'est vrai en ce moment, il y a ce désir de départ, et c'est difficile. Après ça, il y en a aussi qui restent. Il ne faut pas croire que tout se parte. Il y a plus de chrétiens qui restent que de chrétiens qui partent. Et soit dit entre nous, si je regarde les pays du Golfe, il y a plus de chrétiens qui rentrent dans la région que de chrétiens qui partent. Il y a plus d'un million de chrétiens qui sont dans les pays du Golfe. Alors vous allez me dire, ils sont arrivés pour des motifs professionnels. Oui, mais ceux qui partent, les autres pays partent aussi parfois pour des motifs professionnels. Hein. Donc, vous voyez, l'avenir, je ne sais pas moi ce qu'il va donner. Qu'est-ce que ça va donner, ces millions de chrétiens qui vivent dans les pays du Golfe? Rien. Il y aura bien. Dans tous les pays du Golfe, maintenant, il y a une église. Sauf l'Arabie Saoudite. Ça ne va pas durer très longtemps. On sait qu'il y a des messes qui sont célébrées dans l'Arabie Saoudite, dans la résidence de l'ambassadeur de France quand il est catho, et dans la résidence de l'ambassadeur de Tchadie qui, lui, est toujours catho. Voilà. Donc, il y a des messes qui se sont célébrées, les autorités le savent, ils ne vont pas pouvoir rester indéfiniment à refuser la création d'une église. Dans tous les autres pays du Golfe, il y a des débats, il y a des choses qui progressent. Voilà. Donc où est-ce que ça va nous conduire? Donc, il y a cet avenir qui est fragile, qui est incertain. Nous leur disons, pas vous devez rester, votre devoir est de rester. Ce n'est pas à nous de dire ça, ni d'ailleurs de les aider à partir. On essaie de dire plusieurs choses. D'abord, qu'ils ne fantasment pas trop sur la vie du migrant. Ce qu'ils s'imaginent, à vous les migrants, dès qu'un étranger arrive en France, vous lui donnez une maison, vous lui donnez de l'argent. Allez voir à la porte de la chapelle si c'est sûr et sain. Il y a quand même des gens qui dorment dehors, dans des nuits froides que nous avons. Bon. Donc il faut parfois démystifier un peu ce que c'est que la vie d'un migrant. Et deuxièmement, on leur dit, écoutez, si vous voulez partir, vous partez, réfléchissez bien. Et puis, si vous voulez rester, nous, on va essayer d'être à vos côtés pour aider à rester. Donc, ça a été la reconstruction des maisons, la reconstruction d'une église. C'est important que l'église soit construite. Souvent, quand on dit qu'est-ce que vous voulez, par où on commence? On commence par reconstruire l'église, on commence par reconstruire les maisons. Nous, en bon français, laïcard, on dit c'est peut-être plus important de commencer par reconstruire les maisons. Eux, non, il faut d'abord recommencer l'église. C'est ça le signe du futur. Quand l'église est reconstruite, ça veut dire qu'on va reconstruire les maisons.
Qu'est-ce qu'il en est des écoles et des...
Et les écoles aussi. Donc, il y a quand même encore beaucoup de dynamisme. Regardez, par exemple, en Syrie, aujourd'hui, le père Assad avait confisqué les écoles catholiques, les écoles chrétiennes. Voilà. Et confisqué. Donc, vous voyez, quand on dit que les chrétiens étaient alliés au régime Assad, il faut le dire un peu vite, quand même. Hein. Les écoles ont été confisquées. Le fils Assad en a rendu une quinzaine, il y en a encore 50 qui restent confisqués. Et donc, les chrétiens ont dit au nouveau pouvoir en place, vos adversaires ont confisqué les écoles, puisque vous voulez vous démarquer de vos adversaires, rendez-nous les écoles. Si on arrive à récupérer ces 50 écoles chrétiennes, on sauve l'avenir de l'Église en Syrie. Et peut-être qu'on va y arriver. Donc, vous voyez, il y a des choses aussi intéressantes, des choses positives. Moi, si vous voulez, j'ai jamais rencontré un musulman qui me dise le président de mon pays est un dictateur, enfin, comment on dit maintenant, illibéral, c'est comme ça, voilà. C'est un dictateur, le pouvoir judiciaire est complètement inféodé au pouvoir exécutif, de toute façon, tous les cadres du pays sont corrompus, l'imam vient chez moi pour voir comment je vis avec ma femme et mes enfants, il n'y a aucune liberté d'expression, c'est formidable. Ah, les Européens, ne nous imposez pas votre modèle de démocratie, non, c'est très bien comme ça. Il faut quand même qu'on comprenne que beaucoup de gens regardent vers nous et que nos pays, qui ont certes des lourdeurs et des points faibles, restent quand même un peu un modèle pour beaucoup de gens. Et que par conséquent, il n'y a aucune raison que ces pays du Moyen-Orient restent figés dans ces situations de blocage économique, d'absence de liberté fondamentale, d'absence d'indépendance judiciaire, d'absence de liberté d'expression. Ils doivent pouvoir évoluer. Et encore une fois, dans cette évolution, les chrétiens peuvent être des acteurs et des bénéficiaires. Autre remarque. Madame.
Merci beaucoup pour cette journée, déjà. Une question. Vous avez bien exposé, vous nous avez parlé de votre relation avec la cellule du ministère des Affaires étrangères en France, politique. Qu'en est-il de la diplomatie vaticane actuelle ? Votre travail avec.
Alors, presque trois fois par an, je vais à Rome, je noue des contacts avec les responsables de ce qu'on appelle le dicaster pour l'Église orientale, qui est le ministère du Pape qui accompagne l'Église orientale, ou les responsables de la secrétaire d'État qui gère la diplomatie du Saint-Siège. Il faut voir quand même que c'est très complexe, parce que Rome, c'est pas que la diplomatie, il y a la diplomatie. Il y a les gens qui sont en charge de l'œcuménisme, donc des relations avec les protestants et les orthodoxes. Il y a les gens qui sont en charge du dialogue interreligieux, donc avec les musulmans et les juifs. Il y a les gens qui sont en charge de l'action caritative. Tout ça, donc quand on dit que pense Rome d'eux, mais qui Rome ? On va monter à le Mont Blanc, mais enfin, il n'y a pas que le Mont Blanc. Hein. Il y a ces différents circuits qui ont chacun leur logique. Hein. Parfois, l'œcuménisme, l'unité des chrétiens, veut plus cultiver les rapports avec les orthodoxes parfois davantage que d'avoir le souci des catholiques orientaux, par exemple. La diplomatie du Saint-Siège, dans tous les pays où on va, on est évidemment en relation avec les nonces. En France, mais aussi avec les nonces. Donc, je connais tous les nonces, je les rencontre régulièrement, je leur parle et ils me parlent, je les écoute, je leur rends compte de ce que fait l'œuvre d'Orient dans les pays auprès desquels ils sont accrédités. Donc on a beaucoup de collaboration avec les nonces. Cependant, j'ai des points de désaccord avec la diplomatie du Saint-Siège, notamment sur deux théâtres d'opération où je ne comprends pas cette diplomatie. Il faut dire aussi que la diplomatie du Saint-Siège est une diplomatie extrêmement secrète. Donc moi, parfois, je voudrais bien l'aider, mais elle ne me dit pas ce qu'elle veut, elle ne me dit pas ce qu'elle fait. Donc, je suis obligé d'interpréter. Ce n'est pas simple. Voilà. La première difficulté, c'est dans la guerre russo-ukraine. Je considère qu'il y a eu une agression de l'Ukraine par la Russie. On peut développer, mais je vais très vite. Je rappelle quand même qu'il y a eu un mémorandum de Budapest, par lequel notamment la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont signé un traité, vous trouvez ça dans Wikipédia, si vous cherchez les sources, sans trop vous fatiguer, où on reconnaît les frontières internationales de l'Ukraine, y compris le Donbass, y compris la Crimée, en échange de quoi demander à l'Ukraine de donner toutes ses armes nucléaires à la Russie. Enfin, des chefs-d'œuvre de la diplomatie des États-Unis. Enfin, passons, voilà. Donc, ça a été reconnu. Il ne faut pas croire qu'il y a une discussion sur la dimension ukrainienne du Donbass depuis le début. L'Ukraine a été reconnue par la Russie comme un pays souverain dans ses frontières internationales, y compris le Donbass, y compris la Crimée. On ne peut pas accepter qu'une puissance pascale nucléaire se soit autorisée à envahir son voisin. Ce n'est pas des manières de faire. Je trouve que le Saint-Siège a mené une terminologie, une attitude qui était beaucoup trop à parité entre l'Ukraine et la Russie. Je ne me suis pas retrouvé dans cette position. Deuxième théâtre, où je ne comprends pas, et vraiment je ne comprends pas, je suis choqué, c'est cela concerne les 120 000 Arméniens qui vivaient dans cette région qui s'appelle l'Artsakh, le Haut-Karabakh, et qui ont été brutalement chassés par l'Azerbaïdjan. 120 000 Arméniens chassés de leur terre qui était arménienne depuis 3000, 4000 ans, bien avant d'être chrétiens, ils étaient déjà là, qui ont été chassés, et les chefs ont été enfermés jusqu'à maintenant dans une prison à Kaboul où il y a un procès contre eux, et ils risquent la vie, parce qu'ils sont enfermés dans les conditions de détention que vous pouvez l'imaginer, et ils risquent la peine de mort, ils sont considérés comme des factieux. Je trouve qu'il y a un silence insupportable de la part du Saint-Siège, qui par ailleurs a accepté de l'argent de l'Azerbaïdjan pour restaurer je ne sais quelle catacombe, et qui du coup a décoré Madame Aliyev du grand cordon de je ne sais pas quoi, qui est la plus grande décoration qu'on peut remettre à une non-baptisée. Je suis choqué. Et j'ai demandé à mon évêque, puisque je suis vicaire général de la Serbe, il dit écoute, moi je voudrais savoir jusqu'à quel point, comme catholique, comme prêtre, je dois être lié par la diplomatie du Saint-Siège. La diplomatie du Saint-Siège, c'est quand même la diplomatie du Vatican, de l'État du Vatican. Du temps où il y avait les États pontificaux, les nonces étaient les ambassadeurs, les souverains des États pontificaux. Et parfois, du temps où on avait les premiers ministres cardinaux, rassurez-vous, ça ne se produira pas, mais enfin, Mazarin et Richelieu, parfois, avaient une diplomatie qui était en contreposition avec la diplomatie des États pontificaux. Donc moi, je veux bien respecter l'autorité du pape dans l'enseignement, dans sa fonction magistérielle, dans sa fonction de gouvernance de l'Église. Est-ce que je suis tenu à obéir dans le domaine de la diplomatie? Je n'ai pas eu trop de réponse. C'est qu'il me dit bon consent. Voilà. Donc la diplomatie est pour autant une diplomatie importante parce qu'elle n'a pas d'intérêt à défendre. Vous comprenez, la diplomatie du Saint-Siège, elle ne défend pas des territoires, elle ne défend pas des parts de marché, elle n'a pas des forces militaires, on ne va pas oublier la guerre de Suisse en Ukraine. Donc ça lui donne une certaine gratuité qui permet une véritable action, mais souvent très secrète. À Damas, le nom, c'est l'un des on va dire, des diplomates occidentaux, si on peut dire, qui est resté durant toute cette période à Damas, et qui a été appuyé par le pape François, puisque, contrairement à l'usage, il a fait cardinal le nonce à Damas. Donc il a été appuyé. Donc il y a une vraie diplomatie qui peut jouer un rôle important. Je me sens le droit, parfois, de ne pas être au diapason. Et parfois de le dire, voilà. J'ai rencontré par hasard parfois le nonce, je m'attendais à ce qu'il tienne les oreilles, je n'ai pas eu de remarque. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question.
Merci.
Y a-t-il d'autres remarques? Une dernière question, peut-être?
Avec les églises, est-ce que vous avez un lien avec les églises de Cisjordanie? Et est-ce que, par exemple, vous avez des liens avec l'Iran?
Alors,
l'Afghanistan,
même... si je vous remets cette carte pour vous montrer les différents pays où nous agissons, souvent le critère est qu'il y ait dans ces pays une je regarde si je retrouve la carte. Voilà, vous avez grosso modo en rouge les pays où nous travaillons. Souvent, le critère, c'est qu'il y a à l'intérieur de ce pays une église catholique orientale. Ce critère étant rempli, nous aidons également les latins. Nous avons compris qu'il y avait des catholiques orientaux et des latins. Alors qu'en Éthiopie, il y a des catholiques latins et des catholiques orientaux. Et les orthodoxes. Même si nous aidons prioritairement les catholiques, mais enfin, nous devons aider les communautés orthodoxes pour un montant d'environ 1 200 000 euros. Pas si mal que ça. Voilà. Alors, là-dedans, il y a des pays en crise aiguë. Il y a 7 théâtres de crise pour nous, qui nous épuisent un peu d'ailleurs, mes collaborateurs, etc. En Ukraine, nous avons actuellement 2 collaborateurs qui sont à Kiev. Il y a l'Ukraine, il y a donc l'Arménie et le Haut-Karabakh, qui sont 2 choses distinctes, même si c'est un peu lié, hein. Les Arméniens du Haut-Karabakh n'étaient pas des citoyens de la République d'Arménie. Et il y a un danger de guerre avec la République d'Arménie. Il y a le Liban, qui est en train d'avoir des petits signes de lumière, mais il faut encore que ça se concrétise. Il y a la Syrie, où on est dans l'inquiétude et je ne sais pas comment ça va tourner. On essaie de faire en sorte que ça tourne bien, on n'en sait rien, on est inquiet. Il y a l'Irak, qui est encore un pays extrêmement fragilisé. Il y a l'Éthiopie, où il y a des guerres civiles à répétition, et en ce moment, le nord de l'Éthiopie, c'est le Tigré, qui était en conflit avec le sud, on a réussi à arrêter cette guerre civile, mais à l'intérieur du Tigré, les composantes sont en train de recommencer à se faire la guerre. Les guerres civiles sont toujours très violentes, et après ça, il y a la famine, parce que les guerres civiles ont tout détruit, après ça, on ne peut plus nourrir la population. Et puis, la Terre Sainte, avec 4 entités différentes, je me permets de vous rappeler, il y a Gaza, il y a Israël, il y a Jérusalem, il y a Cisjordanie. Jérusalem, jusqu'à maintenant, n'est quand même pas partie intégrante d'Israël. Chacun de ces 4 entités appellerait un examen spécifique. Gaza, vous en entendez parler suffisamment pour que je puisse bien vous apprendre, sans même à Gaza, il y a 3 écoles catholiques, quand même, hein, tenues par des religieuses latino-américaines. Quand le pape allait bien, il les appelait au téléphone tous les soirs. Et 99% des élèves sont musulmans. Et ces religieuses totalement admirables essaient de dire aux jeunes Gazaouis, vous avez peut-être d'autres choses à faire que de vous donner dans les bras des plus violents, c'est-à-dire du Hamas. Absolument extraordinaire. Il y a une paroisse catholique, il y a une paroisse orthodoxe. Et un hôpital en mission. Voilà. Mais le problème risque d'être la Cisjordanie. Et déjà, il risque d'être beaucoup plus encore la Cisjordanie. Parce que les Israéliens n'ont pas envie de s'installer à Gaza. Ce qu'ils veulent simplement, c'est que Gaza ne leur envoie pas de missiles tous les matins, voilà, ce qui peut se comprendre. Mais donc, ils veulent terminer avec ce problème, ils n'ont pas envie de s'installer à Gaza. En revanche, la Cisjordanie, il y a la Judée et la Samarie, ça, il y a beaucoup, plus de la moitié du peuple d'Israël qui a envie de s'installer en Cisjordanie, et donc d'en virer les Palestiniens. Depuis le 7 octobre, il y a plus de 1000 Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie, par les colons israéliens. Donc, un titre est voilà. Donc, cette crise majeure. En dehors de ces 7 crises majeures, il y a des pays qui ne vont pas si mal que ça. L'Égypte va pas mal. La Jordanie, un évêque de Jordanie me disait de parler de la Jordanie comme le pays où les chrétiens sont heureux. Bon, j'en prends acte. Donc l'Ukraine est en guerre. La Roumanie, pas si mal que ça. En Inde, ça va pas si mal que ça, mais l'Inde est quand même confrontée à un parti fondamentaliste qui est le parti au pouvoir. Le bon monsieur Modi, c'est un parti fondamentaliste pour lequel indien égale hindou, hindou égale indien. Donc c'est vrai, c'est par rapport aux 300 millions de musulmans qui habitent en Inde, mais c'est aussi les chrétiens. Vous n'êtes pas hindou, vous n'êtes pas de vrais indiens, de vrais citoyens indiens. Voilà. En Iran, il y a quelques chrétiens encore, mais assez peu. Il y a des Arméniens, des gens d'origine arménienne, il y a des Chaldéens, il y a quelques Latins. Les responsables de la crise islamique verrouillent. Souvent, ce sont des religieux, des religieuses étrangères venus du Liban ou d'Europe. Donc, quand ils repartent, ils n'ont plus le visa pour revenir. Il y a un évêque catholique latin qui est belge. D'ailleurs, que le pape François a fait cardinal, mais c'est quand même très fragile, quand même, en Iran, mais nous les aidons, autant que faire se peut, mais c'est extrêmement difficile pour eux de faire autre chose que le culte. Ils ont des églises, pour ceux, j'allais dire, qui sont nés chrétiens, qui sont devenus chrétiens par le baptême, mais il n'est pas question qu'un Iranien aille dans ces églises. En revanche, il y a en Iran une vraie vague de conversion. Beaucoup de jeunes musulmans iraniens s'ouvre au christianisme, découvre le Christ. Souvent, je dois dire, par influence de groupes évangélistes. Quand leur conversion est connue, ils doivent quitter le pays, menacés par les autorités de la République islamique, soit des menacés de mort, ou par leur famille. Moi, j'ai pu connaître des récits, par exemple, d'une jeune fille qui dit à ses parents, je suis devenue chrétienne, le père fou furieux la met dans la cour de la maison, l'asperge d'essence, elle veut craquer une allumette pour la brûler vive. Elle n'arrive pas à craquer son allumette, elle pousse violemment, les voisins l'exfiltrent, et finalement elle arrive en France. Nous avons en France, gardez ça pour vous, une pastorale pour des Iraniens convertis de l'islam et qui sont donc en France. Moi je ne donnerai pas je ne parierai pas sur la pérennité de la République islamique. Et le jour où elle tombera, ces Iraniens seront un noyau pour une église en Iran. Voilà.
Et donc une conférence du clerc de Monseigneur Ulrich. Voilà.